Soyez les bienvenus sur KBFM, place au Mag Emploi et Pascal reçoit cet après-midi Thomas Bonnecher de la société Iloft basée à Ploufragan.
Le Mag Emploi, Pascal Conen sur KBFM.
Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Thomas Bonnecher, directeur marketing et communication de chez Iloft. Merci beaucoup Thomas d'avoir répondu présent à notre invitation. Déjà, racontez-nous l'histoire un peu d'Iloft. L'entreprise a été créée en quelle année et par qui ?
Alors déjà, merci de m'accueillir et d'accueillir l'entreprise Iloft par la même occasion. Alors Iloft, au départ, c'est l'entreprise Pincemain, qui est un artisan qui fait de la menuiserie, de la charpente. L'entreprise a été créée en 1870, donc ça ne date pas d'hier, plus de 150 ans. C'est ça, a été installée à Ifignac, dirigée par la famille Pincemain pendant 4 générations. D'accord. Donc depuis début du 20e, et puis on a bougé sur Pommeray et on est désormais sur Ploufragan depuis fin 2018, début 2019, avec un rachat qui a été fait par des dirigeants qui sont, on va dire, les dirigeants historiques aujourd'hui, que sont Édouard Lefébure qui rachète en 2006 et Philippe Rouet qui rachète en 2012. D'accord. Voilà un peu pour l'histoire et on se tourne vers le monde de la construction à partir de 2014, qui représente l'activité principale aujourd'hui.
Donc une grande histoire, une belle histoire. Alors justement, quelle est votre activité principale ?
Alors aujourd'hui, on est sur dans le monde du bâtiment et on est sur le marché de la construction, notamment avec la construction de maisons individuelles. Donc on est ce qu'on appelle un CMiste. Ça, c'est la plus grosse partie de l'activité. Mais on a aussi toujours une activité Pincemain qui répond à des appels d'offres, qui a travaillé notamment sur la préfecture de Saint-Brieuc, par exemple, plus sur le métier traditionnel de la menuiserie, la charpente. Okay. Et on a aussi des contrats avec des marchés qu'on appelle B2B, donc on s'adresse à des bailleurs sociaux, on s'adresse à des collectivités, là aussi pour du bâtiment et de la construction.
Oui, donc c'est quand même très vaste, vos activités sont quand même assez diversifiées. Ouais.
Tout à fait.
Vous distribuez vos réalisations sur quel secteur géographique ?
Alors historiquement dans les Côtes d'Armor, mais on s'est un petit peu élargi en termes de ciblage géographique. Depuis, on est dans le Grand Ouest, c'est-à-dire qu'on va jusqu'à la Normandie aujourd'hui, on va jusqu'en Vendée, on va dans le Maine-et-Loire, donc on va dire vraiment un grand Ouest, façade Atlantique et Manche. On va même descendre maintenant jusque Bordeaux et le Sud-Ouest, où on a un bureau commercial là-bas et on commence à produire, fabriquer des maisons dans le Lot, dans le Gers. Voilà. Donc on va très loin.
Ok. Alors justement, vous vous situez comment par rapport à vos concurrents ? Vous êtes premier, deuxième, troisième ? Vous avez déjà...
Alors, on ne va pas se classer par rapport à nos concurrents. On est un petit, il faut être clair. On réalise 250 maisons par an actuellement. Donc on ne va pas se comparer avec les gros du marché, mais ce n'est pas l'objectif non plus. On veut grandir, on veut avoir une croissance maîtrisée. Donc on ne va pas parler de positionnement en place. On sait qu'on grandit beaucoup, on a des croissances de chiffres tous les ans. On va plutôt parler d'un positionnement par rapport à nos concurrents, collègues. On est sur un positionnement avec un prix, on va dire, sur une fourchette moyenne-basse, par exemple. D'accord. Ça, c'est notre positionnement, avec un rapport qualité-prix qui tient la route, et toujours sur des maisons ossature bois. Ça, c'est le positionnement historique, et on ne changera pas cette...
Vous restez sur cette gamme de produits, quoi.
Tout à fait.
D'accord. Ouais. Alors, justement, quelles sont les différentes étapes de construction d'une maison Iloft ?
Alors, déjà, on ne construit pas une maison Iloft, on la fabrique. D'accord. Parce que chez nous, on fabrique en atelier nos maisons. Donc là, les étapes de la fabrication, en fait, c'est la conception préalable. On a un catalogue. Alors là, je vous parle principalement de l'activité construction de maisons individuelles, mais qui recouvre 80% du chiffre d'affaires aujourd'hui. Mais on a un catalogue avec des modèles. Donc on choisit, nos clients choisissent leur modèle, configurent leur modèle avec un volet de possibilités. Donc on a une petite phase conception à réaliser, une phase de dessin, de dépôt de permis, etc. Et après, quand tous ces éléments-là sont prêts, on a une, On a les achats de fournitures qui aujourd'hui posent problème. On aura l'occasion d'y revenir. Et après, on passe à la fabrication chantier. Donc, on va travailler nos dalles. On va monter les murs à l'atelier. On pourrait appeler ça l'usine aussi. C'est la même chose. Donc, tous nos modèles en fait sont assemblés dans l'usine. Les parquets posés, l'électricité installée. C'est l'une des différences par rapport à nos confrères, c'est que on va jusqu'au bout de la fabrication et ensuite on va prendre les différents modules qu'on va venir assembler en une journée sur les terrains de nos clients.
D'accord, vous faites l'installation aussi chez vos clients, d'accord.
Tout à fait, oui. Okay. On fait la pose en fait sur le terrain des clients, on assemble les modules entre eux, on fait l'étanchéité qui doit être faite dans la semaine et après on a un volet de finition qui est fait directement sur le chantier du client.
D'accord, ok. En combien de temps une maison e-loft est-elle prête justement à être livrée?
Alors c'est une question importante et compliquée parce qu'en fait on partage le planning avec nos clients, c'est-à-dire que nous, pour que ça puisse commencer, qu'on puisse notamment commander les menuiseries, qui est vraiment le délai un peu menant, on a besoin que nos clients lèvent leurs conditions suspensives. Ils ont besoin d'être propriétaires du terrain, d'avoir leur prêt et leur permis de construire. Et une fois qu'on a ces trois voyants au vert, on va dire qu'on met 12 mois à réaliser les maisons. Ça paraît beaucoup, hein, parce que dans le fond, on a 2 semaines d'atelier et en moyenne 2 mois de chantier.
D'accord.
Donc pour partir sur 12 mois, c'est aussi qu'on a un délai qui est très long et de plus en plus long de commandes de nos menuiseries extérieures, qui représentent aujourd'hui 5 à 6 mois du délai. Donc ça, c'est incompressible, mais on n'aurait pas ça, vous imaginez la puissance du modèle.
La puissance du modèle, c'est clair, oui. La superficie de votre site au Châtelet, c'est...
Alors, c'est 22 000 m2 d'usine, principalement. On doit avoir, 500 m2 de bureaux disponibles. Et c'est un site qu'on a investi en 2019, qui était fermé depuis 2013.
Oui, c'est vrai.
Suite fermeture Chafoto-Maury.
Chafoto-Maury,
donc
ouais.
C'est un site un peu historique.
Oui, c'est...
Voilà.
Sur le secteur, oui, c'est très historique. Ouais.
Ouais, tout à fait.
Il y a 10 ans, justement, vous étiez combien chez e-loft et maintenant, vous êtes en 2022, vous êtes combien?
Alors, je n'étais pas là il y a 10 ans, hein, vous avez bien compris. Il y avait, une vingtaine de personnes.
D'accord, ouais.
Et aujourd'hui, on est 250.
Okay,
donc,
ouais,
c'est une entreprise qui a...
Super progression.
Super progressé, ouais.
Ouais, c'est bien. Alors, les différents métiers qui composent votre entreprise, c'est quoi?
Alors, on a différents types de métiers. On a des métiers de la vente, forcément, parce que sinon, on ne produira pas grand-chose. Si en amont, on ne vend pas. Donc, les métiers de la vente, on a du commerce, on peut parler du marketing et de la communication, qui sont là pour accompagner la vente aussi. On a les métiers support et on va dire la main-d'œuvre indirecte qui va pas forcément fabriquer les maisons, mais qui va contribuer à les fabriquer, que sont le bureau d'études pour déposer les permis, pour concevoir les maisons et puis préparer tout l'aspect technique en amont de la production. On a bien sûr des services support type comptabilité, finance, les supports classiques de l'entreprise. Et après, quand on va plus sur les métiers de production, donc la main-d'œuvre qu'on va dire directe, on est en atelier sur des métiers type classique, dans le fond, un menuisier, charpentier, plombier, élec, étancheur, je crois que ça se dit comme ça.
Tout corps d'état, en fin de
compte. Tout corps d'état. Voilà, ça c'est sur la partie atelier. On aura à peu près les mêmes profils sur la partie chantier, avec les conducteurs de travaux qui vont aussi animer ces équipes-là, sachant qu'on est aussi en capacité de travailler avec des gens qui sont en reconversion, parce que chez nous on n'apprend pas forcément un métier, celui de menuisier par exemple, on va apprendre une partie de la chaîne. Et après on va faire monter en polyvalence les gens qui composent la chaîne de production.
D'ailleurs, je regardais un peu sur votre site, donc avant de préparer l'émission là, et je voyais que vous aviez une façon de travailler un petit peu comme dans l'automobile.
Oui.
C'est un peu la même façon de faire en termes de production, quoi.
Tout à fait, ouais.
Le même principe.
En termes de vente aussi, hein, dans le fond, puisqu'on va choisir d'abord un modèle, comme on choisirait son véhicule. Et après,
ouais,
on va paramétrer des éléments, pas structurels, mais des éléments qui composent le véhicule ou qui composent notre maison. C'est un peu la même chose, ouais.
D'accord, ok. Alors chez vous, justement, les métiers, est-ce que vous avez des métiers en tension? Est-ce que c'est compliqué?
Tous, à peu près. Hein. Sauf celui de marketing et de communication, parce que je suis là aujourd'hui. On a beaucoup de métiers en tension. Actuellement, les étancheurs, par exemple, c'est un métier qui est difficile un profil qui est difficile à trouver. Les charpentiers, les menuisiers qualifiés de chantier, on va dire. Et le bureau d'études. Le bureau d'études, concrètement, c'est des métiers qui sont fortement en tension. Voilà, beaucoup de concurrence, pas beaucoup de profils.
Donc beaucoup de boulot.
Du boulot.
Quand vous avez des recrutements à faire en CDI ou en CDD, vous faites comment? Quels outils vous utilisez pour recruter?
Alors de manière assez classique, on va passer des annonces. Donc on a chez nous un outil qui nous permet de multidiffuser nos annonces à la fois sur Pôle emploi et sur plein d'autres sites potentiels, mais ça, finalement, ça ne suffit plus aujourd'hui. Ouais. On a engagé un travail autour de la marque employeur dont on reparlera. Ouais. Mais par exemple, on a fait de la publicité au cinéma en cours là sur Saint-Brieuc, proche de Ploufragan, j'ai oublié le nom de...
Ouais, mais ça marche pas mal, au Cinéland.
Cinéland, c'est ça, ouais. Voilà. Et ça fonctionne assez bien.
Ça fonctionne assez bien, apparemment. Il y a des bons retours par rapport à ça, ouais.
Il y a des bons retours et les gens nous connaissent mieux de ce fait-là. Parce que jusqu'à présent, on souffrait d'un défaut de notoriété. Et puis, on fait un peu d'affichage aussi. On a fait de l'affichage à Bribus. On essaye aussi de travailler avec des boîtes d'intérim. Forcément. Et sur des postes un peu spécifiques, on va travailler avec des cabinets de recrutement dédiés à la fonction.
Ouais, donc c'est vraiment tous azimuts.
Tous azimuts.
Faut tout essayer, en fait.
Tout à fait. On a aussi du système de parrainage en interne qui sont en place pour recommander des gens qu'on connaît.
C'est une bonne formule aussi, ça. Ouais.
C'est une bonne formule.
Ouais, c'est pas mal, ça.
Effectivement.
Votre profession se féminise-t-elle? Est-ce que vous avez du personnel féminin dans vos ateliers?
Oui, de plus en plus. Alors, on a essayé en préparation de l'émission là, de faire un petit peu le compte. On doit avoir aujourd'hui 10%. 10% c'est faible quand même,
mais
c'est quand même mieux que rien du tout de femmes en fait qui composent l'équipe atelier, notamment en préparation, finition, appareillage, voilà. Et puis ça se passe très bien.
Ça bouge aussi de ce côté-là.
Oui, ça bouge aussi de ce côté-là. Ouais. On a eu l'occasion de fêter la journée de la femme en mars dernier. Et on avait une photo de groupe qui était plutôt sympa.
Ouais, c'est bien ça.
Voilà. Ouais, tout à fait.
Est-ce que sur certains postes, vous faites appel aussi à l'alternance ou à l'apprentissage?
Mais tous les postes, en fait. Tous les postes sont ouverts à l'apprentissage. On a des apprentis côté chantier, pincement actuellement, côté communication, à l'atelier aussi. On va en recruter aussi au contrôle de gestion. Enfin, tous les secteurs peuvent être concernés par ces formats qui sont intéressants.
Ouais, pour vous, c'est quelque chose d'intéressant, l'alternance ou l'apprentissage, c'est quelque chose d'important, quoi.
Alors, c'est important. Et puis, il y a des aides de l'État qui sont en place depuis l'année dernière, qui sont renouvelées cette année, qui rééquilibre un petit peu l'aspect économique de la chose, et c'est un moyen de faire connaissance avec un jeune, de voir comment il se développe dans l'entreprise et de potentiellement, dans la mesure du possible, proposer quelque chose en sortie, comment se développe.
De ne pas avoir trop de surprises en fin de
c'est
compte,
ça. Ouais,
une fois que son stage est fini, entre parenthèses.
Ouais. Ouais.
Okay. Pour vos recrutements, vous travaillez en partenariat avec des centres de formation aussi ou...
Alors, on n'a pas partenariat gravé dans le marbre, signé avec des centres de formation, mais on travaille beaucoup en communication avec le CFA de Ploufragan, avec les bacs pro que sont lycée Jean Monnet à Quintin, Fraissinet et Sacré-Cœur à Saint-Brieuc. Voilà, c'est-à-dire qu'on va diffuser nos annonces par leur intermédiaire. On peut aller faire des interventions sur site, rencontrer les étudiants. Alors, on avait aussi un projet d'accueillir le lycée Jean Monnet de Quintin en visite sur notre site. Bon, pour le coup, on a reporté parce que on doit faire cette visite sur des horaires hors production pour des questions de sécurité.
Ah oui,
et on n'a pas réussi à trouver le bon créneau compatible. Mais c'est des choses qui peuvent se faire, au contraire.
D'accord. Alors, quand vous accueillez de nouveaux collaborateurs chez vous, comment se passe cette intégration?
Alors, une caisse de champagne, bien sûr, pour démarrer.
Une voiture neuve.
Une voiture neuve. Une maison neuve, d'ailleurs. Non, bah, écoutez, c'est assez classique. Dans le fond, on a un livret d'accueil qui présente un petit peu les services de l'entreprise, les différents les différents services et leur chef de service. On a forcément un règlement intérieur avec un aspect sécurité qui est assez développé, parce que chez nous, on coupe du bois, on manie
des outils lourds,
qui peuvent être des choses un peu dangereuses. Donc, on a forcément les EPI aussi, les équipements de protection qui vont être présentés, explicités aux salariés. On fait un tour des locaux, on présente le poste de travail, on présente les locaux communs, que sont le réfectoire, etc., nos vestiaires. Enfin, on a quelque chose finalement d'assez classique, et on a chez nous un réseau social interne qui s'appelle Steeple, un petit peu de publicité pour cette boîte rennaise, qui permet de partager de l'information, on va dire descendante, c'est-à-dire les managers de services ont quelque chose à partager sur la vie de l'entreprise. Même les gens qui sont sur chantier reçoivent sur leur téléphone et leur application ces informations-là et peuvent interagir, réagir. Et les salariés eux-mêmes, collaborateurs, peuvent partager leur barbecue du week-end.
C'est important de créer une bulle comme ça.
C'est bien, digital ça. Pour une fois, créer du lien finalement.
C'est bien ça.
C'est intéressant.
Alors, quelles sont les principales difficultés de votre métier pour trouver justement du personnel ? C'est quoi ? C'est la pénibilité ? C'est les cadences ? C'est des choses comme ça ?
C'est un petit peu tout actuellement. C'est surtout qu'on est sur un marché en tension, globalement, le marché de l'emploi. La pénibilité, maintenant, est-ce que il est plus pénible aujourd'hui de travailler avec un toit au-dessus de sa tête et dans des conditions avec des horaires précis pour la partie atelier en tout cas, que de travailler à l'extérieur avec
charpente,
voilà. Donc la pénibilité, mais sans doute moins que sur d'autres métiers de la construction ou d'autres collègues de la construction. Donc marché en tension, et puis l'intérim aujourd'hui, on voit que les jeunes ont du mal à s'engager à un CDI à notre époque, c'était le Graal. aujourd'hui, le CDI, c'est l'enfermement dans le fond, parfois
manque de liberté.
Voilà,
c'est une vision à court terme.
On veut garder notre liberté, donc l'intérim, c'est pas mal, même si ça ne nous arrange pas toujours.
Voilà. Mais c'est vrai qu'on ressent ça partout. Hein,
je pense, complètement.
Tous les employeurs, c'est un peu le même son de cloche qu'on a, parce que c'est un peu partout pareil. La fidélisation des salariés est devenue un sujet important. Comment faites-vous pour avoir le moins de départs possible ?
Comment fait-on ? Alors, on essaye déjà d'interroger nos salariés pour savoir ce qui leur convient ou ce qui leur déplaît. Le groupe Etex qui a investi dans notre société il y a un an en arrière maintenant, mais au cœur de ses valeurs, l'intérêt, le bonheur, c'est un peu galvaudé, mais le bien-être du salarié au travail. Donc c'est quelque chose qu'on développe encore plus, c'est-à-dire qu'on interroge nos salariés sur leurs conditions de travail pour savoir un petit peu ce qui les fait rester, ce qui les fait partir. Dans ce qui les fait rester, en tout cas, c'est les horaires de travail aujourd'hui qui sont fixes, qui sont connus à l'avance, donc ça c'est intéressant. L'ambiance de travail, parce qu'on reste une équipe assez jeune sur un sujet porteur, on a l'impression et c'est le cas, on fabrique le monde de demain. Donc,
on est dans l'environnement, on est dans plein de choses.
Exactement, en termes de sens en tout cas, ça, c'est porteur. On a un produit donc qui est sympa à travailler. Et puis des perspectives d'évolution, on a souvent des collaborateurs de l'entreprise qui progressent au sein même de l'entreprise.
D'accord.
Il y a des perspectives de promotion interne qui sont intéressantes qui sont réelles.
Voilà. Il y a pas mal d'outils quand même à votre portée éventuellement trouver. Il faut trouver une bonne ambiance. C'est vrai que c'est important.
Ouais.
On sent que les jeunes sont de plus en plus.
Et c'est difficile à créer dans un contexte Covid où on a dû annuler des animations qui étaient prévues. Enfin, voilà,
faut trouver des choses nouvelles. Il faut créer.
Tout à fait.
La formation interne et continue de vos salariés est quelque chose d'important chez vous. Comment fonctionnez-vous ?
Alors, on fonctionne beaucoup avec des organismes de formation pour aller former au CACES, c'est assez classique, formation électrique pour mettre à niveau les salariés, mais aussi du management. On essaye de travailler en tout cas cette partie-là, parce qu'on a on fait progresser des gens qui n'avaient pas l'habitude de manager, on essaye de leur donner les bonnes bases.
C'est un autre métier.
C'est un autre métier, exactement. Intéressant.
Riche.
Complexe. On est d'accord. Et puis en interne aussi, on essaye de beaucoup former pour aller chercher de la polyvalence, pour faire monter en compétence nos collaborateurs sur plusieurs métiers, ce qui est intéressant pour eux, ce qui est bénéfique aussi pour l'entreprise globalement.
D'accord. Alors justement, nous parlons de plus en plus de la marque employeur. Alors la vôtre, c'est quoi ?
Alors, on y a travaillé, effectivement. On a mis en place toute une démarche d'interview des salariés, on va dire, administratifs, bureaux, ateliers, chantiers, etc., pour justement faire remonter ce que représentait un peu e-loft pour eux. Et ce qu'on en a ressorti, en fait, on a ressorti une phrase qui signe aujourd'hui nos communications, c'est à Ploufragan, parce qu'on est en proximité. Nous fabriquons aujourd'hui le monde de demain. Nous sommes e-loft. Et cette signature-là, elle a été très bien perçue en interne, parce que nous sommes e-loft, on le ressent beaucoup aujourd'hui dans le contact qu'on a avec tous les salariés de l'entreprise, c'est qu'il y a une forme de fierté de faire grandir cette entreprise. Ça fédère beaucoup. Donc voilà, c'est aujourd'hui e-loft, c'est contribuer à un défi d'innovation, c'est fabriquer un habitat durable, accessible. Donc là, je vous donne un peu les grandes lignes de cette marque employeur. C'est intégrer une entreprise en croissance, qui est certes soutenue par un groupe international puissant, mais il faut aussi avoir les reins solides pour encaisser la croissance. C'est un collectif soudé, respectueux de chacun, et c'est des opportunités de développement professionnel dans son poste, ses missions, et puis au-delà.
Ok. Ouais. Donc les salariés se sont vraiment appropriés l'entreprise, quoi. C'est quelque chose de fort à ce niveau-là.
Oui, c'est fort. Ouais.
D'accord.
On sent une volonté d'amélioration continue et de toujours faire mieux.
Tout le monde est impliqué, quoi.
Complètement, oui. Ouais.
Alors, il est vrai que l'entreprise a des devoirs vis-à-vis de ses employés, mais l'inverse est aussi vrai. Quelles sont les valeurs que vous recherchez chez un candidat, à part bien sûr ses compétences ?
Alors, je mettrai en premier le côté aventurier. Ça, c'est quelque chose qui est ressorti justement de l'étude qu'on a faite sur la marque employeur. C'est-à-dire que quelqu'un qui, chez nous, va rechercher du confort, du cadre, de la routine, il risque de s'ennuyer, ou en tout cas il risque de pas faire long feu. Alors ça dépend des postes aussi, mais on a un côté aventurier. Voilà, nos deux dirigeants historiques, on va dire depuis 2006, sont des voileux. Ils aiment bien aller à l'aventure.
À l'aventure.
Donc il faut suivre et même anticiper, créer cette aventure. Voilà, donc aventurier, je pense que c'est un mot qui
c'est
une qualité qui est nécessaire. Bon, après sinon l'esprit positif. Parce qu'on a souvent des montagnes à soulever quand même, donc il faut avoir un esprit positif pour y aller, donc être motivé, force de proposition, et puis le côté ponctuel, parce qu'on travaille en usine, et donc il y a une notion de pointage malgré tout.
Le savoir-être, le respect des horaires.
Tout à fait, voilà, c'est ça.
D'accord.
Voilà.
Alors, est-ce que c'est compliqué de travailler dans un domaine où les normes de construction changent en permanence ?
Alors, c'est relativement compliqué. Oui, on est là aussi pour ça, justement. Et on a une équipe de professionnels qui composent l'entreprise, qui sont justement en charge de voir un petit peu, de faire cette veille juridique, technique, etc. Donc, difficile, non. C'est une vigilance. C'est aussi un accompagnement. Aujourd'hui, on travaille avec le Pôle Habitat 22, donc qui est la Fédération française du bâtiment, un décrochage Côte d'Armor qui nous appuie sur nos démarches, nos questionnements juridiques, techniques, etc.
Ouais,
voilà, on
suit. Pas louper de marche, mais il faut suivre le rythme. Quoi.
C'est ça, mais effectivement, ça change régulièrement.
Ça change régulièrement, voilà. Ouais. Vous n'êtes pas trop ennuyé par les différentes difficultés actuelles, en particulier par la pénurie sur le marché de certains matériaux ?
Alors si, forcément, on est touché globalement comme le marché. Après, on est peut-être un peu moins embêté que des, entre guillemets, petites structures artisans qui vont passer des commandes une fois tous les deux mois auprès de certains fournisseurs. Nous, on a des volets de commandes qui sont plus importants, récurrents, une capacité de stockage qui fait que, par exemple, on a acheté tout notre bois pour les 12 prochains mois à un moment, il y a peu, où on s'est dit que le marché était peut-être à son plus bas, que ça allait repartir. Donc oui, on a des difficultés, notamment sur la partie menuiserie extérieure, où même les producteurs de menuiserie ont été contingentés sur leurs accès aux matériaux. Donc on est touché. C'est pas simple à gérer, pas simple à expliquer à nos clients, parce qu'en général, quand on dérape en planning, le client ne le comprend pas.
Difficile.
Donc régulièrement, j'explique aux clients que le monde a changé. C'est une formule qui peut prêter à sourire, mais le monde a changé et on maîtrise plus. Il faut s'adapter. Voilà, c'est pas simple.
C'est clair. Comment voyez-vous le marché dans lequel votre entreprise évolue ?
Alors, disons que je suis content d'évoluer dans cette entreprise et pas dans une entreprise traditionnelle du bâtiment, parce que tous les voyants sont au rouge, hein, si je veux être un peu objectif. Le foncier est en tension. Il y a des lois qui existent, qui sont en train de passer. La zéro artificialisation nette, par exemple, qui dit que d'ici 2050, quand on voudra prendre un terrain pour faire construire, il faudra déconstruire ailleurs. Donc c'est quelque chose qui est pas simple du tout. Ah après, c'est aussi une nécessité. À un moment, quand on a mangé les ressources de la planète au mois d'août, il faut rapidement se poser des questions.
Si on veut pas aller dans le mur, oui.
Voilà, donc c'est pas choquant, mais ça va forcément changer le monde du bâtiment, de la construction. Donc on a un foncier en tension, le prix des matériaux qui explose, le prix de l'énergie qui explose. C'est peut-être ponctuel, mais peut-être pas. La main d'œuvre qui se raréfie, en tout cas sur des métiers spécifiques. Et sur des métiers qui peuvent être considérés comme pénibles. Donc voilà, les voyants sont quand même plutôt au rouge. En ce moment, on voit bien que les banques qui ne gagnent plus trop d'argent à accorder des prêts sont de plus en plus frileuses. Donc c'est sans doute un marché qui va changer. On est sur un concept, nous, qui doit permettre justement sur nos prix qui sont moyenne basse, on va dire, de continuer à pouvoir acheter un terrain tout en mettant une maison dessus, parce que c'est quand même l'intérêt. Et puis voilà, on a des opportunités dans ce marché en tension, mais il y a sans doute de nouvelles formes d'acquisition qui vont apparaître. On a des pays, plutôt en Amérique du Sud, où on achète des concessions désormais, par exemple. D'accord. C'est-à-dire qu'on achète sa maison pour 99 ans et on renouvelle le bail, donc on n'est jamais réellement propriétaire. Voilà, et le rôle des pouvoirs publics va sans doute être important, mais on n'a pas entendu grand-chose pendant la dernière campagne sur le sujet, donc on ne sait pas. Voilà, après on se dit aussi que le format des logements va changer aussi, c'est-à-dire que aujourd'hui on a besoin de logements abordables, mais qu'est-ce qu'un logement abordable quand on a 45 ans, 3 enfants, ou quand on a 22 ans et qu'on démarre dans la vie? Nous, avec notre principe de construction modulaire, on doit pouvoir, avec un petit peu de R&D quand même, faire des choses qui sont évolutives dans le temps.
Qui s'adaptent dans le temps.
Dans le temps, et qui s'adaptent à la composition familiale et aussi aux finances. Donc voilà, le marché, il évolue dans un sens qui est plutôt positif par rapport à notre modèle.
Par rapport à votre modèle,
c'est d'ailleurs pour ça qu'on s'est engagé dans ce modèle-là.
D'accord, ok.
Voilà.
Est-ce que vous avez d'autres projets pour votre entreprise sur du long terme? Est-ce que vous avez des choses un petit peu dites?
Alors le long terme, c'est quelque chose d'abstrait chez Iloft. Pince-main, le long terme, c'est 12 mois, je pense. Oui. C'est-à-dire que ça va tellement vite. Alors les projets qui sont en cours, c'est de nouveaux marchés qui s'ouvrent. C'est-à-dire que le foncier se tend. Donc on a un parc immobilier qui existe en France avec quelques passoires énergétiques et thermiques. Voilà, donc on a de gros marchés sur de rénovation qui sont en cours, poussés par un programme qui s'appelle Energy Sprong au niveau européen. Donc ça, c'est des marchés énormes sur lesquels on a à raconter une histoire aussi, puisque en général, on vient poser une surcouche par-dessus ces logements-là, et cette surcouche-là, ça peut être nos panneaux bois qu'on fait à l'usine. Donc on a un premier marché qui va démarrer, et puis on en a un autre qu'on a pas le droit de nommer, donc je vais l'appeler jeu 2024 sans vous dire autre chose. On fait le bâtiment des athlètes pour les Jeux 2024.
D'accord.
On a 145 chambres sur 7 étages. Ça va être transporté par voie fluviale, posé en bord de Seine.
Ah oui, c'est
et ça va nous donner. C'est un beau projet qui démarre.
C'est une belle référence. Ouais,
c'est une très belle référence, ouais, ouais. Qui démarre la semaine prochaine en production et qui va évoluer dans les mois prochains.
Ouais, c'est sympa, ça.
Ah ouais, tout à fait. Belle aventure.
On va en reparler sans doute de ce genre
de choses. Je pense, ouais.
Est-ce qu'aujourd'hui, vous recherchez activement justement des candidats, et sur quel poste? Est-ce que vous avez des postes un petit peu sur lesquels vous cherchez du monde?
Un peu tous les postes. Hein. Je vais vous citer de nouveau les charpentiers, les étancheurs, les menuisiers ateliers, menuisiers qualifiés chantiers, qui est, voilà, donc menuisiers globalement, les caristes aussi, et puis spécifiquement dessinateurs, bureaux d'études. C'est voilà, les quelques postes cherche.
D'accord. Et pour vous contacter, comment font les gens? Ils vous envoient un CV? Comment ils viennent vous voir? Comment ça peut se passer?
Oui, c'est ça. Il y a des gens qui passent directement siège. On peut aussi passer par le site internet www.e-loft.fr.
Voilà. Ok, donc on vous contacte de cette façon-là.
Tout à fait.
D'accord, merci.
Merci à vous.
Alors pour finir un petit peu notre chronique d'aujourd'hui, deux petites informations de la part de Pôle emploi. Le mardi 10, les métiers de l'industrie à 14h. Le secteur de l'industrie recrute. Alors venez découvrir les métiers et les entreprises sur Saint-Brieuc et alentour en échangeant avec l'Union des industries et des métiers de la métallurgie au cours d'un entretien individuel. Alors c'est sur inscription. Donc recrutement.22030@pole-emploi.fr. Et autrement, le jeudi 12, voyage en agriculture. Au programme, visite d'une exploitation de volailles et d'une entreprise d'horticulture. Sur inscription, sur le même mail. Et vous avez aussi donc Interaction qui va agir pour celticher la plaie l'eau. Donc le jeudi 12 à 9h, vous pouvez avoir des entretiens avec Interaction qui sera sur Pôle emploi. Voilà, bah écoutez, bonne journée, merci à vous et à bientôt.
À bientôt, dans 3 semaines du coup, parce que le Mag Emploi fait une pause pendant 2 semaines, Pascal.
2 semaines,
voilà, vacances. Bah, bonnes vacances. Hein.
Merci.
À bientôt.
Le Mag Emploi, Pascal Conen, sur Corbe FM.